à toutes et à tous pour cette nouvelle émission co-animée avec Damien Saintès, journaliste à Radio Le Dev. Bonjour Damien.
Bonjour Samuel.
Nous recevons monsieur Jean-François Soto. Monsieur Soto, vous avez été réélu maire de Gignac dès le premier tour des municipales en mars dernier avec plus de 71% des voix face à la candidate du Rassemblement National Amélie Drevet. Et vous avez été également réélu le lundi 20 avril dernier à la présidence de la communauté de communes Vallée de l'Hérault avec 49 voix sur 51.
Bonjour Samuel, bonjour aux auditeurs de Radio Pays d'Hérault.
Bonjour, donc c'est un plaisir, on voit que les Gignacois ont renouvelé avec grande force tout votre soutien pour le projet que vous menez avec votre équipe municipale.
Absolument, et vous l'avez dit, le mot qui est important que vous venez de prononcer, c'est renouveler avec force. À savoir qu'aujourd'hui, la commune de Gignac qui a connu un taux de participation de plus de 65%, et donc ce qui fait que pour les communes de plus de 6000 habitants, nous avons été renouvelés en 6e position. Donc ce qui nous donne une très très grande légitimité, et je crois qu'en tous les cas, en ce qui nous concerne, le fait d'avoir battu à plate couture des idées d'extrême droite nous convient parfaitement.
Oui, c'est vrai que vous avez tenu des discours qui étaient sans ambiguïté aussi, en rappelant vraiment votre soutien à la culture et aux traditions aussi de Gignac.
Oui, mais je pense que de toute façon, autant le renouveler en ce début de préséance d'interview. Pour nous, il est clair que les extrêmes n'ont pas lieu, en tous les cas, dans la gouvernance locale. Que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, ce sont des discours qui ne nous conviennent pas. Et j'ai toujours été clair, et je préfère en tous les cas affronter les urnes avec vraiment des dispositions et un discours politique clair. D'ailleurs, je salue Carole Delga, qui est aussi présidente de région, a le même discours très clair. Michael Delafosse, idem, et au département, idem. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très naturel.
Puis derrière, donc ces élections communautaires, vous étiez déjà le président de cette communauté de communes, Vallée de l'Hérault. Le mandat précédent, là aussi, une réélection... on disait 49 voix sur 51, une réélection assez forte.
Écoutez, le premier mandat en tant que président, c'était 47 voix sur 48, puisqu'à l'époque, il n'y avait que 48 délégués. Là, c'est 49 sur 51. Franchement, je pense que là aussi, cela démontre toute la qualité du travail collectif que nous avons réalisé lors du précédent mandat. Avec 96% des délibérations votées à l'unanimité. Et là, on a une très très large confiance qui a été apportée sur ma candidature. Et donc, de ce fait-là, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour maintenir les équilibres territoriaux, les équilibres dans l'investissement qui est réalisé en termes de fonctionnement, d'équipement, mais aussi d'irrigation du territoire, à savoir au sens propre et au sens figuré, à savoir l'eau et l'assainissement qui est bien réparti avec un budget de l'ordre de 72 millions d'euros qui a été voté fin décembre et qui fait qu'aujourd'hui on a à peu près 3 millions d'euros d'éléments qui sont sur l'eau potable et 3 millions d'euros sur l'assainissement. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur.
Justement, avant de revenir peut-être sur les projets, débutons par les hommes. Alors, ça n'a pas changé pour vous, toujours maire de Gignac, toujours président de cette communauté de communes, Vallée de l'Hérault. Un territoire, Vallée de l'Hérault, où ça a quand même bougé durant ces élections municipales. On pense à ici, cette commune de Saint-André-de-Saint-Gonis qui nous accueille, à Montarnot. La gouvernance, voilà, le choix des hommes. Alors, il y a quand même de la continuité. On pense à Philippe Salasque, toujours premier vice-président, maire de la commune d'Agnan. Voilà, comment vous avez renouvelé cette nouvelle mandature avec vos vice-présidents et comment vous percevez ce territoire pour ces, normalement, 7 prochaines années.
Vous parlez de Philippe Salasque, mais il y a aussi Madame Ney, Véronique Ney, maire de Pouzol, qui est deuxième vice-présidente. Il faut savoir qu'un tiers des élus ont été renouvelés sur les 28 communes, un tiers avec beaucoup d'entrées de maires femmes, et qui, comme elles arrivent, ont souhaité faire partie de l'exécutif, parce que vous le verrez, on a à peu près 35% d'élus femmes qui sont dans notre exécutif, pas toutes Et tous ne sont à parité sur la gouvernance des vice-présidences, mais ça a été plus des souhaits des personnes qui ont dit on arrive à la gestion et à la tête de notre commune, laissez-nous le temps un petit peu d'appréhender les choses pour être encore plus efficaces, et je les en remercie. Mais par contre, au niveau de l'exécutif global, qui se réunira tous les lundis soirs, comme nous l'avons fait lors de la précédente mandature, c'est à peu près 35% d'élus femmes, et donc je crois qu'on est une des communautés de communes qui est le plus représentatif en termes presque de parité, puisque au total c'est 40% d'élus féminins qui sont élus au sein de la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Après, sur les renouvellements, bien entendu, on a tenu compte d'un équilibre territorial, comme je le disais tout à l'heure, à savoir Saint-André-de-Sangonis, Montarnon, et les deux maires ont été aussi, comme c'est la deuxième et la troisième communes les plus importantes de la Comcom, tout comme le maire de Saint-Parois aussi, qui est aussi une commune qui devient importante en nombre de populations. Et de ce fait-là, tout le monde, on a trouvé une place équilibrée dans le respect à la fois du suffrage universel, mais aussi à la fois dans la répartition des tâches et des missions. Maintenant, c'est tout le monde au travail.
Vous avez dit que c'est en restant unis et solidaires qu'on pourra renforcer les piliers qui font l'attractivité de notre territoire. Et c'est vrai que c'est ce qui ressort aussi, c'est que ce sont des maires très unis qui composent en effet la communauté de communes Vallée de l'Hérault.
Ben écoutez, c'est de chez nous qui est parti un symbole sportif, hein, les maires à vélo. Et au travers de cet esprit d'équipe, d'effort, de contribution, de solidarité, eh bien, c'est constitué un esprit d'équipe. Pour beaucoup, nous nous connaissons depuis très très longtemps. Nous avons été ensemble à l'école, au collège, au lycée, ou sur les terrains de sport. Et donc, du coup, ça a contribué à créer une ambiance. Mais je veux croire quand même que c'est d'abord à la confiance, à la qualité du travail, à l'intelligence collective de notre projet de territoire. Je voudrais associer le fait que la communauté de communes Vallée de l'Hérault est très en place en termes d'ingénierie, et ça veut dire qu'autour de la direction générale des services et des directions générales adjointes et associées, évidemment, il y a beaucoup, en tous les cas, d'efforts qui ont été réalisés pour porter un objectif prospectif sur les années à venir, et on a un plan pluriannuel d'investissement qui va aller jusqu'en 2027. Et prochainement, nous avons bien entendu à peu près un séminaire qui va redéfinir pour réajuster l'ensemble du projet de territoire que l'on veut améliorer, ajuster, moderniser, équiper et nous projeter sur 2032, 33, 34.
Alors justement, comment vous voyez les années à venir ? Vous avez beaucoup investi lors du mandat précédent avec des projets structurants. On connaît le contexte national, c'est compliqué au niveau des financements de la part du département, de la part de la région, de la part de l'État. Comment enfin, vous imaginez ce prochain mandat ? Ça va être moins d'investissements, toujours autant d'investissements. Comment vous voyez les choses ?
Bon, d'abord, ça va être un mandat qui, à mon avis, va être beaucoup plus politique que les autres. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que normalement, dans cette mandature, il va y avoir déjà l'année prochaine les présidentielles, il va y avoir les législatives dans la foulée, le renouvellement du département et de la région, et peut-être, une nouvelle présidentielle, une nouvelle législative, etc., etc. Donc, un mandat beaucoup plus politique. Un mandat perturbé et qui débute férocement avec tout ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe bien entendu au Moyen-Orient. On voit bien les conséquences dans la vie quotidienne. Alors permettez-moi de dire d'abord que toutes les solutions simplistes portées par des partis, en particulier du Rassemblement National, sont d'une simplicité déconcertante, sur lequel aujourd'hui, sans l'apport de toutes et tous, à savoir les intercos, le département, la région, l'État, l'Europe, on aura de plus en plus de mal à affronter le niveau d'exigence de plus en plus fort. et de plus en plus dans l'immédiateté que nous réclament les citoyens. Parce que la contradiction, c'est que si on ne lève pas l'impôt ou on ne lève plus l'impôt, comme le département ou la région, et dans les collectivités de proximité comme les communes en particulier, bien évidemment, à un moment donné, nous qui portons des services publics de proximité, avec plus d'écoles, plus de culture, plus d'entretien, plus de sport, plus de tissus associatifs qui font la vie au niveau de la transversalité, qui font que les gens se rassemblent dans de bonnes conditions, les politiques jeunesse, bien évidemment, si on arrête ça, alors ça veut dire que les choses vont se distendre. Donc, pour les 6-7 ans à venir, je crois que, un, le mandat sera de plus en plus politique. Deuxièmement, chaque fois qu'il y a des décisions, le prix de l'énergie, par exemple, les bâtiments, le patrimoine, les investissements, si je prends ne serait-ce que le bitume, ça a pris 30% aujourd'hui. Vous voyez, quand vous avez envie d'investir, de revenir, que ce soit sur toutes les énergies, les déplacements, le réseau de collecte des déchets, indépendamment de ce que l'on peut penser du bien fondé ou pas. S'il y a un principe de réalité, c'est qu'il faut de plus en plus trier et il faudra. Mais le citoyen voit que sa facture augmente malgré tous les efforts qu'on lui demande. Pour autant, vous voyez bien tout le ramassage, l'impact que cela va avoir. Quand on voit l'entretien de la GEMAPI, on parlait de l'eau potable, de l'assainissement, tout cela, c'est... Dernièrement, je prenais comme exemple la commune d'Arboras, qui est la plus petite commune de notre communauté de communes. Eh bien, la station d'épuration, 550 000 euros pour 108 habitants. Imaginez-vous, aujourd'hui, s'il n'y a pas l'intercommunalité pour pouvoir... comment voulez-vous que la commune d'Arboras puisse faire cela? Et puis, la gestion d'une commune et d'une intercommunalité, c'est plein d'aléas. C'est plein d'aléas. Ça veut dire, c'est des murs qui s'affaissent, des chemins ruraux qu'il faut refaire, des accès, des groupes scolaires, de l'énergie froid ou chaud en fonction des températures. C'est la vie de tous les jours. C'est comment on occupe les services publics, comment on fait avec France Service, avec les éléments. Et c'est en ce sens où les politiques publiques que nous menons à l'intercommunalité me paraissent fondamentaux, à savoir le fait qu'on va avoir le label national pour le Somnambule sur les musiques actuelles. Je pense qu'il faut tirer vers le haut le fait que le tissu associatif, rien que sur Gignac, 135 associations. Quand je vois toutes les propositions qui sont faites à l'échelle de l'intercommunalité, l'abbaye d'Agnane, sur laquelle on va avoir un lieu de prestige.
On y reviendra, parce que ça va être un des projets phares de ce projet mandat.
Absolument, on va le livrer là prochainement. Ça va être un moment extrêmement fort. Derrière, il y a un conservatoire régional à rayonnement intercommunal sur les écoles de musique. Il y a bien entendu ce week-end l'annonce par le président du département, Kléber Mesquida. Enfin, tout le travail qui a été réalisé au travers de tous les efforts qui avaient été faits sur le pays cœur d'Hérault avec les territoires voisins et amis, mais là, au sens du département, de l'annonce de la labellisation UNESCO du Géoparc. Ça, c'est extrêmement... Et le président du département, Kléber Mesquida, a raison d'être fier d'avoir porté cela. Et avec un peu plus d'une centaine de communes, qu'il va y avoir des répartitions et des répercussions là-dessus mondiales. Donc, oui, c'est l'entretien des paysages, du patrimoine bâti, et aussi c'est des retombées économiques avec bien entendu des découvertes et aussi de l'association de produits et des prestations culturelles.
En attendant, avant de se projeter vers un nouveau projet de territoire qui va marquer ces prochaines années, l'immédiateté, c'est déjà conclure finalement ce PPI, ce plan pluriannuel d'investissement avec cette dernière année 2026. L'immédiateté, ça va être par exemple la maison des mobilités et du tourisme. Ça va être quoi l'actualité pour la communauté de communes Vallée de l'Hérault en termes de grands projets structurants dans les prochains mois à venir?
Écoutez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. D'abord, je voudrais dire que vous parliez de PPI, plan pluriannuel d'investissement, sur la période qui se terminera en 2027, sur les 120 millions d'euros prévus, on aura réussi la performance d'en avoir réalisé 110. C'est-à-dire, on peut être très 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 satisfait de la manière dont on a créé, réfléchi, projeté, monté avec une ingénierie telle que je le disais, telle que juridiquement, réglementairement et financièrement. Donc ça, c'est à mettre au crédit de l'ensemble des élus de la précédente mandature et de ceux qui démarrent. Après, je dirais la Maison des mobilités et du tourisme, inauguration le 11 juin. Présence le matin du préfet de région et puis aussi de tous les éminents représentants de la métropole, de la région, du département, enfin bref, tout le monde viendra parce que c'est un moment clé. On vient de rajouter en plus de l'utilité évidente de cet outil. Il faut le voir comme un outil. Eh bien, si on a rajouté des places de parking, on a rajouté des services supplémentaires pour le tout vélo, pour l'accueil des publics qui vont prendre aussi les mobilités, puisqu'on réfléchit toujours avec la métropole pour avoir le bus à haute qualité de service. Mais après, maintenant, c'est plus à eux à réfléchir là-dessus, comment on avance là-dessus. C'est l'abbaye d'Agnane qui arrive. C'est l'accueil, puisqu'on a réussi à avoir enfin l'agrément ministériel des unités de gendarmerie. Donc c'est un projet là aussi à 17-20 millions d'euros en face le lycée Simone Veil et on va permettre aussi d'avoir...
Démarrer quand ?
Voilà, je pense que là, dans le deuxième semestre 2026, on aura purgé tous les recours possibles, tous les éléments administratifs et juridiques. Et donc on pourra travailler là-dessus. Mais ça, c'est une très très bonne nouvelle pour le territoire. Donc le PSIG, la motorisée, la scientifique et la recherche vont venir. 53 familles, c'est aussi... voilà. En même temps, on va créer des nouvelles places de parking. Alors bien sûr, il y a les 50 nouvelles que l'on vient de créer autour des maisons des mobilités et du tourisme. Mais de l'autre côté de la passerelle, d'ailleurs, qui a été embellie par le côté créatif, innovant des élèves du lycée Simone Veil, qui d'ailleurs, je remercie et je salue l'équipe du proviseur Antoine Roux, puisque vous savez, le lycée Simone Veil est classé deuxième lycée technique de tout le département de l'Hérault et au niveau de la région Occitanie. Le lycée technique agricole ne cesse de nous surprendre en qualité. Bref, je pense que notre territoire fait ce qu'il faut.
Oui, tout à l'heure on parlait en effet du contexte international très angoissant et on sent aussi forcément le besoin des habitants de retrouver une échelle locale, de se retrouver à l'échelle locale et d'avoir aussi des points de rendez-vous, d'avoir des moments de rencontre. Et on sent aussi à travers vos projets aussi que vous arrivez à créer aussi ces moments pour que les habitants puissent aussi se retrouver dans toute l'intercommunalité.
Bah écoutez, c'est des choix politiques avec un grand P. Hein. Pour nous, la culture, c'est 12% de notre projet. L'école de musique, c'est 2%. Le réseau des bibliothèques et médiathèques, avec la gratuité, c'est 1%. Le patrimoine, c'est 9%. Les fonds de concours, avec les moyens communautaires, sur l'informatique, les bâtiments, les véhicules, les partenariats et les moyens, c'est 12%. Toute la politique des services au sens large, pour les mobilités, c'est 2%. La petite enfance, c'est 2%. Le cadre de vie, c'est 66%. Eau potable, 25%. L'assainissement, 25%. Les déchets ménagers, 5%. Le GEMAPI, 2%. Les grands sites de France, avec toutes les politiques de biodiversité, c'est 3%. L'habitat, c'est 6%. Et puis, bien entendu, l'économie, pour finir, 6%. Les aides aux entreprises, c'est 4%, et les commerces, agriculture et tourisme, c'est 2%. Tout cela, c'est des choix politiques assumés qui font que, regardez la créativité, le soutien à tous les festivals qui ont eu lieu. Je veux dire, il n'y a pas eu de retrait. Un des éléments qui nous fait le plus plaisir, c'est aussi l'école de musique, bien entendu, le Sonnambule, bien entendu, mais aussi tout ce qui touche le théâtre populaire de la Vallée de l'Hérault, qui fait qu'aujourd'hui, autour du tourisme, autour de l'œnotourisme porté par le département de la région, et puis bien entendu la communauté de communes, et puis c'est aussi plein de commerces qui sont implantés, l'aide à l'immobilier, Ben là, aujourd'hui, nous sommes dans le cœur de Saint-André de Saint-Gaudens. On voit que ben, Radio Pays d'Hérault a refait ses locaux et on a fait l'inauguration il y a peu. Je crois qu'aujourd'hui, ben voilà, les conditions de travail se sont considérablement améliorées.
Alors, justement, le choix d'avoir pour premier vice-président Philippe Salasque, toujours dans sa délégation de développement économique, c'est aussi un signe fort. C'est, voilà, c'est le développement économique qui va être quand même le vecteur le plus important ou un des vecteurs les plus importants de ce prochain mandat.
Ben, déjà, respecter les fondamentaux. Au-delà des personnes, moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est les politiques que l'on veut mener. Je dirais, on a un premier vice-président en charge du développement économique, on a un élu en charge de l'agriculture qui est Grégory Brault. Et c'est un signe fort dans un moment où c'est un secteur pour nous très important, c'est une carte postale, d'avoir un élu jeune dont c'est le métier qui est notre interlocuteur vis-à-vis
très agricole, hein.
Des chambres d'agriculture. Il y a 6 caves coopératives sur notre territoire. Donc, quand on voit dernièrement toutes caves ouvertes à Montpérou, quand on voit les festivals de vin qui se multiplient, les marchés au terroir que nous portons, il y en a eu l'an dernier 22. Les associations d'accueil de courts-métrages, de films, de reportages, etc., comme à Château Capion, qui est sur Gignac, bien entendu, il y a eu 20% qui sont sur Aniane. Mais
jusqu'au bout de la façade, c'est
jusqu'au bout de la façade, et après le côté piscine, c'est Aniane. Mais indépendamment de ces éléments, c'est tout le territoire qui gagne. C'est tout le territoire qui gagne, et je suis sûr que vous m'interrogerez tout à l'heure sur le côté sécurité civile ou sécurité militaire. Mais j'ai parlé un peu de la gendarmerie. On pourra parler de ça. Et puis, j'aimerais bien qu'on aborde la question de l'accès aux soins.
Bien, allons-y. Alors, qu'est-ce qui va être mis en place au niveau de la sécurité, notamment au sein de notre territoire ?
Bah, écoutez, déjà, j'ai fait part d'une annonce quand même majeure, à savoir que...
Fin d'année, lancement des travaux pour la gendarmerie.
Oui, on démarrera fin d'année, début d'année prochaine. Et d'ailleurs, en même temps, concomitamment, il y aura 2 autres gros chantiers qui démarreront. Je fais juste une incise, mais parce qu'elle est importante. Sur notre territoire, on accueille entre 700 et 1000 nouveaux habitants sur les 28 communes. On va construire une nouvelle crèche intercommunale sur Gignac avec une résidence autonomie aussi. On travaille à une réflexion autour des EHPAD, enfin, qui risque de s'appeler maintenant Maison France Autonomie, si vous avez suivi l'actualité. Il y a aujourd'hui la sécurité civile avec le PPSU, le pôle d'entraînement en situation d'urgence, qui est quelque chose qui va drainer autour de la politique que mène le SDIS 34, soutenu par l'État et par le département, puisque les deux présidents, le président actuel est Kléber Mesquida, et en même temps, c'est lui qui a voulu et souhaité et porté cette implantation. Mais il y a aussi Madame la préfète qui a accompagné ce projet, avant lui Monsieur Loche, et avant lui Monsieur Moutou, et avant lui Monsieur Poissel, qui ont fait en sorte que le lycée, tous ces éléments-là, se puissent voir le jour sur Gignac. D'abord, je vais faire un clin d'œil à Hugues Moutou, puisque c'est pour les unités de gendarmerie, c'est quand même lui, avec Frédéric Poiseau, qui est nommé préfet de Mayotte, et Hugues Moutou, préfet de région à Val-de-France. Donc, du coup, aujourd'hui, on est bien équipé. C'est plus de 15 000 journées de formation attendues. C'est aussi l'apport du GIGN, du RAID, des différents secteurs de police nationale ou de gendarmerie qui viennent s'entraîner là, mais des corps d'élite. C'est demain l'accueil. Ça a été annoncé en séance du département d'un A320, puisqu'il va y avoir des formations et des entraînements de force pour autour d'un avion A320. Donc c'est pas que notre territoire va accueillir un aéroport, je rappelle ça, parce que faudrait pas quand même que certains confondent...
Face des raccourcis,
vous savez, par les temps qui courent maintenant, les populistes simplistes, il y en a de plus en plus. Donc, pour moi, je préfère le dire avant, comme ça, au moins, c'est très clair. Mais je ne serais pas surpris que quelqu'un qui vienne me dire des choses de ce niveau-là. Si vous voulez, quand on a voulu implanter notre terrain de sport de tambourin, les gens croyaient que de nouveau, on allait bétonner, alors que c'est pour soutenir le sport traditionnel et ancestral de notre territoire et qui crée de l'activité. Donc soyons, on n'est pas surpris de cela. Aujourd'hui, nous, on défend une politique de l'habitat avec un plan local de l'habitat, troisième version. Je salue le travail qui avait été réalisé lors du précédent mandat par Jean-Pierre Pugens, qui n'est plus parmi nous, suffrage universel oblige. Mais en tous les cas, vous dire combien on est... dans une volonté de poursuivre une politique ambitieuse, équilibrée, et qui fait qu'aujourd'hui, la vallée de l'Hérault rayonne.
Sur la santé, alors ?
La santé, alors là, pour nous, c'est vraiment le sujet qui, je crois, pour l'attractivité du territoire est au-dessus. Je parlais tout à l'heure de la gratuité pour la culture, les bibliothèques, les médiathèques, mais... La santé, on a réussi un tour de force. Permettez-moi d'insister là-dessus, puisque je suis vice-président national en charge de la santé au niveau des intercommunalités de France. D'ailleurs, prochainement, on doit réunir les instances et autres. Et j'ai eu l'honneur de représenter notre territoire dans les 6 élus de l'Hérault la semaine dernière, à l'Élysée, au contact de ministres, pour dire, nous étions 6 de l'Hérault, donc c'est quand même... une fierté, un honneur pour tout le territoire, au-delà de moi-même, bien entendu, puisque moi j'ai eu la chance d'y aller, déjà ça fait la troisième fois. Mais vous dire que quand je me suis entretenu avec le président de la République, je lui ai dit simplement qu'il vienne voir ce pôle de santé, puisque le pôle de santé qui est implanté sur la commune de Gignac n'a coûté 0 euros à l'État. Pourquoi ? Parce que l'aménagement et le foncier, c'est la commune et l'intercommunalité qui a tout porté. Un bailleur social a porté les murs. Et à l'intérieur, les médicaux et paramédicaux locaux se sont installés et sont devenus propriétaires. Et après, on a agrégé un projet médical porté par Aesio Santé Méditerranée et qui, aujourd'hui, apporte toutes les disciplines les plus larges dans le respect du tarif conventionnel. Dans le respect du tarif conventionnel. Et en même temps, on a réussi à implanter un scanner. Et bientôt, nous travaillons sur d'autres éléments techniques, bien entendu. Donc, ce qui est vraiment un exploit par les temps qui courent, très attendu. Et je dirais que quand on voit aussi ce qu'on a apporté sur la dentisterie et sur l'orthodontie, je pense que là-dessus, et d'ailleurs les électeurs ne s'y sont pas trompés, je crois.
Et on sent que l'accès aux soins, la demande d'accès aux soins, c'est une des priorités aussi, forcément, aussi des habitants.
Écoutez, Monsieur Sentès est jeune, et vous-même aussi, Samuel, mais moi je commence à être un peu plus âgé que vous, mais en tous les cas, vous dire qu'il y a pour nous... un élément majeur, d'ailleurs les Français, ils vous parlent de quoi ? Ils vous parlent d'accès aux soins et de sécurité. Je crois que sur tous ces critères-là, si on y rajoute en plus l'éducation, le tourisme, la jeunesse, la culture et l'économie, je pense qu'on doit être pas trop mal noté.
Oui. Et pour vous, ces prochaines années, ça va être aussi autant, j'imagine, d'investissements dans les incontournables, peut-être pas très sexy, pas très glamour, mais je parle de l'eau, de l'assainissement et des déchets. Ça, ce sont des sujets qui restent d'actualité et primordiaux.
Ben, pour préserver un cadre de vie de qualité, harmonieux, équilibré et continuer à bâtir une économie attractive, innovante et créatrice d'emplois, je l'ai dit tout à l'heure, on a sacralisé, comme au département, l'ingénierie autour de l'eau et de l'assainissement. Alors, l'eau et l'assainissement, c'est à peu près 3 millions, comme je le disais en début de séance, sur l'eau potable, 3 millions sur l'assainissement. Mais on voit les résultats. Quand nous avons pris la compétence en 2018 à aujourd'hui, on est passé de 63% à 85%. Donc, de performance. Là où on est un peu plus interrogatif, parce que c'est toujours plus, c'est les déchets. Les déchets, on voit bien qu'il faudra faire continuellement des efforts, avec le fait qu'on ne voit pas toujours les résultats. Même si, très honnêtement, partout où on a déployé le schéma de collecte, on voit les progrès considérables. Sur l'eau potable et sur l'assainissement, on le mesure plus facilement, même s'il n'y avait qu'une commune à l'époque qui avait un schéma directeur de l'eau, c'était la commune de Gignac avec sa régie. D'ailleurs, je réinsiste sur le fait pour dire que nous sommes les seuls à avoir encore une régie d'électricité avec un barrage hydraulique et tout ce qui touche la biodiversité et tout ce qui touche l'énergie vertueuse avec tous les projets autour de l'énergie verte, avec le photovoltaïque bien pensé et autres. On est plutôt là aussi très heureux de voir que quand on met un euro d'investissement dans notre territoire, ça fait plutôt 1,50€. Voilà.
J'aurais bien voulu aussi parler du travail que vous avez déjà mis en place au niveau du tourisme avec les autres différentes intercommunalités, notamment celle du Clermontais et du Lot-des-Voies-Larzac. Comment ça va se passer aussi? Est-ce que vous allez continuer aussi ce travail autour du tourisme, de rassembler les forces de chacune des intercommunalités pour proposer aussi une offre touristique élargie aux touristes et aux habitants aussi?
Bah écoutez, il y a deux fondamentaux, vous le savez, le pays Cœur d'Hérault, qui regroupe les trois communautés de communes, vont se réunir prochainement pour renouveler les instances. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le pays Cœur d'Hérault doit avoir une trajectoire commune pour un jour. Vous le savez que je porte ça avec beaucoup d'engagement. Le terme fusionné n'est pas très bien adapté.
Faire de trois EPCI une seule.
Oui, je pense que l'avenir, c'est une grande agglomération, 85 000 habitants. Quand on voit ce qui se passe au niveau métropolitain, quand on voit ce qui se passe dans le côté biterrois, Sétois, Agatois, Pissénois, le Pic Saint-Loup, Lunéloir, le Pays de l'Or. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a une trajectoire qui est un peu implacable. Après, on a déjà réussi à faire le schéma de cohérence d'organisation territoriale du pays Cœur d'Hérault, voté à l'unanimité, qui s'appelle le SCOT, qui est vraiment la colonne vertébrale de comment on habite, comment on se loge, comment on se déplace, comment on vit et on respecte le cadre de vie et comment on implante l'économie. Et on respecte l'agriculture. Après, il y a, avec tous les schémas d'irrigation qui sont en particulier dans notre territoire portés par la ZAD de Gignac, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Après, au niveau du contrat local de santé, on est déjà sur la base, y compris sur la santé mentale, sur une organisation à l'échelle du pays Cœur d'Hérault. Et puis, bien entendu, le tourisme, ben pour nous, ça fait qu'un tout. Et le label Géoparc UNESCO doit nous encourager à avoir, évidemment, au niveau des trois OTI, enfin, moi, je vais parler surtout de l'OTI de la vallée de l'Hérault, puisque on est vraiment là-dessus.
Office de tourisme intercommunal.
Ouais. Bien, j'espère, en tous les cas, que ce qu'on n'avait pas réussi totalement à concrétiser et imbriquer lors du précédent mandat, on puisse le réaliser là.
Bah, ce qui est rassurant, vous est content, c'est qu'on sent que vous n'allez pas vous reposer sur vos acquis tout au long de cette mandature et qu'en effet, c'est aussi cette possibilité-là de relever de nouveaux défis et de relever de nouveaux défis en lien avec les habitants, en lien avec les communalités, et ça c'est très agréable.
Je dirais que malgré quelques incompréhensions certainement, on n'a jamais été... Nous on bâtit pour construire l'avenir et préparer l'avenir. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. On le fait dans un cadre réfléchi, engagé, responsable, citoyen et républicain. Je crois que c'est important de bien l'axer. On se tourne aussi vers la jeunesse. On le fait aussi vis-à-vis des plus anciens, puisqu'on a créé le TAD, le transport à la demande aussi. On essaye de n'oublier personne. Après, bien évidemment, on est attaqué par des personnes qui pensent que... Je vais prendre un exemple. Dire qu'on ne peut plus augmenter la fiscalité, c'est mentir aux gens. Si on veut maintenir des niveaux de service, voilà, moi je le dis clairement, c'est mentir aux gens. Après, bon, bien entendu, il y en a peut-être qui le croient, mais ne pas augmenter les impôts, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, avec le coût et la flambée des énergies, comment va-t-on faire quand demain les groupes scolaires qui sont soit au gaz, soit à l'électricité, soit avec les déplacements des camions et autres, pour ramasser tel ou tel produit ou élément sur la chaussée, comment fait-on si à un moment donné on ne fait pas en adéquation à certains éléments. Donc moi je suis plus de sécurité, plus de tout. À un moment donné, c'est comme chez vous, si vous investissez pas, ben vous n'avez pas le retour. Moi je trouve que l'investissement, l'emprunt, c'est pas un gros mot, à condition que ce soit un moteur. Et en plus, je n'oublie pas, puisqu'on est quand même sur une plaine de formation, hein, je l'ai dit, du lycée technique agricole, de la DMO, jusqu'au lycée Simone Veil, en passant par le PESU et demain différentes structures avec nos collèges et autres. Si on ne soutient pas l'économie et que les donneurs d'ordre principaux, que sont les collectivités, ne s'investissent pas, ça veut dire que c'est de plus en plus de personnes qui vont se retrouver en difficulté. On va perdre des savoir-faire, et en même temps, il y a plein d'artisans, commerçants, qui vont se retrouver dans des situations économiques difficiles, et après, on va les retrouver dans les solidarités aux personnes, souvent portées par le département.
Oui, également, vous apportez aussi un soutien essentiel aux médias locaux tels que les nôtres, donc Radio Lodève et Radio Pays d'Hérault.
Ben, voilà, c'est un exemple aussi des dispositifs Petites Villes de Demain ou Villages d'Avenir qui sont portés dans notre territoire. Village d'Avenir sur la vallée de l'Hérault, c'est Le Pouget, Montpérou. Petites Villes de Demain, c'est Gignac-Saint-André, mais qui permettent à tous les autres, et y compris avec les politiques de fonds de concours que nous avons mis à disposition et votées budgétairement, qui font qu'aujourd'hui, bah, vous êtes dans des locaux qui sont modernes, adaptés, et une qualité de travail qui permet justement de faire rayonner, de faire parler de la vallée de l'Hérault en particulier. Donc on est très heureux de pouvoir concrétiser ce genre d'opération.
Oui, on le sent bien. En tout cas, c'est un message d'espoir que vous portez aujourd'hui pour le futur.
Écoutez, non seulement d'espoir, mais aussi de volonté forte de faire en sorte que notre pays et notre territoire existent, revendiquent et soient aussi dans une trajectoire positive. Et je crois que la vallée de l'Hérault, le symbole, c'est le dynamisme et l'intelligence collective.
On arrive déjà à la fin de cette émission. Est-ce que vous voulez aussi rajouter quelque chose aux éditrices et auditeurs qui nous écoutent, monsieur Jean-François Soto ?
Bah, tout simplement vous dire d'abord, en vous remerciant de votre invitation pour me permettre d'exprimer les choses très simplement, très naturellement, vous dire que nous sommes convaincus, avec des convictions, sur de l'humanisme très ancré dans nos territoires, sur nos traditions, sur le vivre ici, et le vivre en mixité, parce qu'il y a besoin, et c'est un fait, nous avons tout un axe des mobilités qui fait que notre territoire devient de plus en plus attractif, parce que nous avons implanté des structures qui permettent justement à avoir plein de manifestations, qu'elles soient sportives, culturelles ou tout simplement de faciliter la vie. On parlait de l'accès aux soins, on parlait aussi de l'éducation, on parlait aussi de la sécurité. Voilà, moi je crois qu'aujourd'hui, tout en respectant le cadre paysager, patrimonial, je pense sincèrement qu'on remplit notre mission et on se doit de le porter avec responsabilité, audace, mais aussi rigueur, ce que nous faisons. Et nous sommes en tous les cas convaincus de cette solidité et je pense que la dernière installation a démontré en tous les cas cette unité et cette fondation qui nous permet d'envisager l'avenir avec robustesse.
L'unité, c'est un mot fort et pour bien terminer cette émission, en effet. Rester unis, c'est très très important par les temps qui courent. Donc merci encore une fois de porter ces discours-là. Merci aussi à Damien d'avoir co-animé aussi l'émission. Voilà, et on suivra de près, bien sûr, de toute façon, les actualités de la communauté de communes Vallée de l'Hérault.
Et nous ne voulons surtout pas exclure quiconque. Voilà, donc je crois que c'est l'humanisme aussi est au cœur de notre ambition.
Eh bien, un grand merci à tous et à tous. Un grand merci, monsieur Soto. Et
merci,
on vous retrouve
à vous
pour une prochaine émission. Voilà. Merci et bonne journée à tous nos auditrices et auditeurs sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.
Bonne journée.